Good morning, ladies and gentlemen.
Bonjour, messieurs, dames, et merci d'être ici à cette conférence aujourd'hui. Je suis Jay Bybee, je suis juge dans la Cour d'appel des États-Unis. C'est la première fois que je viens à cette conférence à BYU et j'étais très impressionné. Je suis arrivé hier après-midi et donc j'ai assisté aux sessions d'hier après-midi et aux sessions de ce matin. Et je crois que c'était vraiment... nous avons eu des discussions très intéressantes. Et je suis vraiment très apprécié... J'apprécie énormément l'invitation de BYU. OK, ça va mieux marcher comme ça. Nous allons commencer notre discussion de ce matin avec la discussion de savoir comment les tribunaux gèrent les tensions entre les droits humains et les différents groupes. Nous allons d'abord entendre juge Arnaud, qui est une ancienne juge en Jordanie. Elle a reçu son diplôme en 1999. Elle a travaillé comme avocate en Jordanie et est ensuite devenue juge magistrate en 2010. Elle est and we'll be working this next year at the law firm of Curtin McConkey in Salt Lake City. Donc j'ai parlé avec elle ce matin et elle m'a dit qu'elle allait rester un peu longtemps parce que son mari va étudier ici à BYU. Nous sommes aussi très contents d'avoir avec nous Milton Ray Guevara. C'est un juge, président du tribunal constitutionnel de la République dominicaine. Il a étudié et a travaillé en Angleterre et en Irlande et a travaillé comme ministre du Travail dans la République dominicaine. Nous sommes très contents de les avoir tous les deux parmi nous. Nous allons d'abord entendre juge Arnaud et ensuite juge Guevara. Ensuite, nous discuterons. Juge Bybee et Guevara, délégués et invités du symposium, c'est un honneur que d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter mon pays. Je veux mentionner le fait que j'ai reçu mon diplôme de cette école, le programme LLM. C'était une expérience formidable pour moi. Puisque nous parlons de la religion en tant qu'un des droits de l'homme, je voudrais parler donc de la perspective de la religion comme de droits de l'homme dans l'islam. L'islam et les autres religions apportées par les messagers de Dieu n'incluent pas seulement le concept des droits de l'homme et les appliquent, mais ils offrent même une compréhension plus profonde de ces concepts, puisque ces concepts dans la religion existent a priori. L'islam reconnaît la liberté des croyances et des droits religieux. Il n'y a pas de conflit entre le concept de droit de l'homme et la religion comme droit de l'homme. Au contraire, l'islam encourage le travail de l'esprit et la liberté de penser. L'islam ne perd pas de vue les droits de l'homme. Au contraire, nous trouvons dans le Coran des principes universels de déclaration des droits de l'homme. Par exemple, un verset qui dit dans le Coran, « Ô humanité, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme et qui en a créé à partir de cette âme sa compagne et a fait découler d'eux beaucoup d'hommes et de femmes. » Donc la loi religieuse musulmane, qu'on appelle charia, s'attache à préserver les cinq constituants de l'être humain, qui sont la religion, l'âme, l'esprit, la progénité et la propriété. En Jordanie, l'islam est la religion de l'État, mais ça ne veut pas dire que les autres religions soient opprimées. Au contraire, la constitution jordanienne dit que l'État doit préserver l'exercice libre de toute forme de culte et de droit religieux en accord avec les coutumes du royaume. Quand nous disons que les religions de l'État donc, comme je l'ai dit, l'islam donc est la religion de l'État du Jordan, mais les autres religions sont acceptées. Par exemple, la constitution jordanienne s'attache à ce que les autres religions aient leurs propres écoles. Et donc, bien sûr, ces écoles doivent se soumettre aux lois du pays et être contrôlées aussi par le gouvernement pour ce qui concerne leur curriculum et leur orientation. Également, nous avons nos propres tribunaux. Il y a le tribunal religieux qui est divisé en deux parties. Le tribunal charia et le tribunal des autres communautés religieuses. Les tribunaux religieux décident des problèmes donc, qui ont trait au statut personnel. Ça veut dire donc que la plupart des lois concernant la famille, telles que le mariage, le divorce, le parentage, l'adoption, etc. La charia, donc, qui est la loi islamique religieuse, s'applique donc aux musulmans de ces régions et le système tribunal charia existe donc pour juger des litiges. J'aimerais parler maintenant de la tolérance de religion en Jordan. La charte adoptée en 1999 en Jordanie protège les droits, l'intégrité et les libertés des individus tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies le déclare. Il n'y a donc aucune différenciation. Chacun est donc égal, quelles que soient les races, religions, etc., en Jordanie. Nous comprenons l'importance de cela quand on entend les remarques de Notre Majesté, le roi Abdullah, tel qu'il l'a dit aux Nations Unies à New York. Il a dit donc... qu'en Jordanie, il y a des initiatives pour préserver l'égalité des religions à travers le spectre ethnique et religieux. Et l'État islamique doit être un État civique fondé sur les institutions et qui comprend donc toutes les lois, les justices et liberté de foi. Les professeurs qui étaient réunis lors de cette réunion donc, ont condamné l'encouragement de conflits ethniques et sectaires. Ils ont reconnu que c'était un mal qui était une menace pour le monde islamique. Ce mois, en Jordanie, nous avons eu une réunion internationale pour parler des défis que les communautés chrétiennes arabes connaissent. Elles sont une part essentielle de notre passé. Et donc, nous allons faire tout notre possible pour protéger les chrétiens arabes qui sont des communautés minoritaires le plus souvent dans nos pays. Et nous demandons à tous les pays donc, de se réunir pour travailler dans cet effort de tolérance. La Déclaration universelle des droits de l'homme déclare que tout le monde a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La Constitution jordanienne dit également que la religion de l'État est l'islam et l'État doit préserver l'exercice libre de toute forme de culte et de droit religieux en accord avec les coutumes observées dans le royaume, à moins qu'elle n'aille à l'encontre de l'ordre et de la moralité physique. La définition de l'ordre et de la moralité publique n'est pas évidente et les critères et les menaces à l'encontre de l'ordre public qui pourrait découler de l'exercice de certaines formes d'adoration et de droits religieux n'est pas facilement décidé. Et c'est donc la tâche du juge de décider si ils sont donc contraires à l'ordre public ou à la moralité. Et c'est donc un défi pour les juges. Le code criminel prévoit des sanctions différentes pour différentes actions, comme l'attaque des prophètes religieux et des lieux de culte, ou perturber les gens assemblés pour le culte. Et la loi aussi prévoit des sanctions pour quiconque attaque la foi d'autrui ou ses sentiments pour la foi et publie ce qui est considéré comme une attaque des fois et des religions. Tout écrit ou discours ayant pour but ou résultat des mouvements de sanctions ou racistes qui poussent au conflit sont considérés comme un crime. On se souvient, par exemple, du procès contre Google pour avoir posté une vidéo sur YouTube donc, qui se moquait du prophète Mohammed. Les tensions entre la liberté de religion et les droits de l'homme arrive donc quand l'expression de la religion et de la foi est donc remise en cause. En 2011, une règle, une décision d'un tribunal a mis fin à l'application d'une clause légale d'un code pénal parce qu'il contredisait les clauses de la Constitution qui garantissaient la liberté d'expression et d'opinion. Cela a ouvert un précédent qui a ouvert la porte à d'autres tribunaux pour ne plus hésiter à mettre fin à l'application de clauses dans une loi qui contredit les lois de l'homme définies dans la Constitution. Donc c'est un défi que les tribunaux ont de savoir quand appliquer les conventions et les traités du droit de l'homme. La Constitution jordanienne n'a pas d'article qui soit à l'encontre donc des conventions et des traités publiés dans la Gazette officielle. La Cour suprême dans ses décisions s'attache à soulever le flou dans la manière d'appliquer les traités internationaux et les conventions, en essayant les traités et les conventions internationales transcendent les lois nationales en conflit avec eux. C'est donc aux tribunaux d'appliquer les traités et conventions des droits de l'homme. Les traités des droits humains ne peuvent pas être appliqués tant qu'ils ont été appliqués dans les gazettes. Dans le système judiciaire jordanien, l'application des conventions et traités internationaux, y compris les conventions des droits humains, a eu lieu donc depuis 1960 jusqu'à ce jour. En 2011, la Jordanie a établi une cour constitutionnelle qui aide à superviser l'application de la Constitution par les tribunaux. Merci.
Thank you very much. I am grateful to our moderator and Judge Arnuta. Good morning to all of you. I consider this a privilege and a blessing from God to have been invited to this conference in regards to religion and human rights.
Concernant la religion, à l'université de Brigham Young. J'aimerais faire une brève introduction avant ma présentation. Dans notre République dominicaine, en 2012, a été institué dans notre constitution Nous avons travaillé pendant une année et 10 mois dans notre tribune. Nous n'avons pas encore eu de tension entre la religion et les droits de l'homme, mais bien sûr, il y a des dispositions dans notre Constitution qui se réfèrent à cette question de diversité, de liberté de conscience et de religion. Pour l'indépendance de notre pays, il est important de savoir qui a commencé en 1927 et en 1844. Il y avait eu un mouvement en juillet 1838 et ce mouvement a été appelé la Trinité. Il y avait un serment qui commençait sous la sainteté ou la Trinité sainte du Dieu Tout-Puissant. Elle invoquait Dieu comme le fondement du serment des hommes qui voulaient créer et fonder la République dominicaine. Donc, dans notre Constitution présente, dans notre préambule à la Constitution, c'est au nom de Dieu et le nom de Dieu est invoqué. Dans le quatrième article, nous établissons une expression qui dit que Dieu, pays et liberté. Pays et liberté avec le soutien de Dieu. Dans notre 33e article aussi, lorsque nous parlons de notre symbole national et notre drapeau, nous pouvons voir une Bible ouverte à la page de Jean, chapitre 8, verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Ce n'est pas l'État n'est pas dénominationnel, mais tous ceux qui font partie de ces nations ont Dieu comme le centre de leur inspiration pour renforcer la nation dominicaine pendant les siècles à venir. Et dans notre pays, même l'article 44 et 45 établissent de façon catégorique que l'État garantit la liberté de conscience et de culte, qui respecte les bonnes coutumes. Et donc, elle souligne le droit qui est reconnu dans notre Magna Carta. Maintenant, on peut souligner aussi que dans notre Constitution en 1844, nous nous référons à l'Église catholique comme l'Église d'État. Et dans notre article 208, que le président de la République est nommé par rapport à cet article. Dans la Constitution de 1865, bien sûr, elle reconnaît le caractère confessionnel de l'État, mais ces manifestations ne devaient se produire que dans leurs temples respectifs. Mais plus tard, une réforme constitutionnelle de 1867, il y a eu un ajout, la tolérance de culte en 1907. La Constitution, il y en a eu plusieurs qui ont été modifiées. La Constitution ne se réfère pas à l'Église catholique comme la religion nationale, mais elle confère Elle confirme que les relations avec l'Église catholique resteront les mêmes. Ce n'est qu'en 1908 que la liberté de conscience et de culte a été maintenue où la relation a été maintenue avec l'Église catholique, et en 1942, il y a eu un ajout, la subjection à l'ordre public et à des traditions appropriées pour l'exercice de la liberté de conscience et de culte. Dans la Constitution de 2010, il n'y a pas de régulation concernant les libertés, et nous ne parlons pas de liberté religieuse, mais ce qui est vrai, c'est que nous avons accepté les droits de l'homme et le pacte international entre les gouvernements qui sont tous liés à la République dominicaine, ainsi que les implications qui en dérivent concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion. Et donc, la liberté de religion a été soulignée dans notre Constitution, et tous les États ont l'obligation de l'observer. Dans notre Constitution, nous disons que le tribunal constitutionnel doit observer la Constitution, défendre l'ordre et protéger les droits fondamentaux, que ces décisions sont définitives et irrévocables et constituent des précédents pour tous les pouvoirs de l'État. Donc, on n'a aucune opinion n'a été prononcée ou la religion a été impliquée, mais pourtant, dans notre jurisprudence dominicaine, tous nos tribunaux ont prononcé, ont fait des déclarations concernant des questions de religion. Il y a eu un verdict en 2008 qui a été soumis à la Cour suprême de justice à l'occasion de s'il y avait une éventualité contre une résolution du Congrès qui a été approuvée entre les en 1954. À cette occasion, la Cour suprême avait reçu une pétition et a déclaré cette résolution. Il faut aussi que je mentionne que la Cour constitutionnelle n'a pas le droit de changer ce qu'il y a dans le concordat. En 2010, la Constitution a établi que la Cour ne peut pas réviser les décisions judiciaires qui ont acquis un caractère irrévocable jugé devant par rapport à la Constitution de 2010. Donc, comme il y avait une décision a été faite en 2008, la Cour ne peut pas toucher ce sujet, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas adopté des décisions qui sont pertinentes à l'exercice de la liberté religieuse. Par exemple, il y a une disposition en République dominicaine qui permet une loi à propos de mariages non catholiques dans le 55e article et qui dispose que les mariages religieux auront l'effet que la loi détermine. et suivant les mandats constitutionnels qui régit les mariages religieux et leurs effets dans la République dominicaine. Nous avons célébré un mariage non catholique avec effet civil et le jeune couple appartenait aux témoins de Jéhovah. À ce moment-là, nous continuons à accréditer les pasteurs de différentes églises évangéliques pour qu'ils puissent faire ces mariages avec les implications civiques. En 2010, la Constitution a libéré les citoyens pour qu'ils puissent choisir à quel culte ils voulaient appartenir. Dans un mémorandum des États-Unis concernant la liberté de religion en République dominicaine, on parle de que le gouvernement devrait respecter la liberté religieuse et ne pas et que cette application se fasse pour d'autres groupes religieux séparés de l'Église catholique. Bien que le processus ait été long, le gouvernement n'a pas rejeté les pétitions cette année-là. Et toutes les lois dans la République dominicaine parlent de l'aspect de la religion et de ses implications dans la société. C'est le cas dans la loi 4400 qui établit la lecture et l'étude biblique dans les écoles publiques séparées de méthodes d'enseignement biblique qui a été proposé par le conseil de l'unité évangélique. Cependant, nous devons souligner que un autre point notable, et c'est le manque de mise en œuvre de ce programme. Donc, parce que nous voulons mettre l'emphase sur la liberté de pensée, de conscience et de religion. Donc, il est dommage que dans notre République, toutes les confessions et groupes religieux sont gérés par cette vieille loi sans organisation sans but lucratif. Maintenant, nous avons mentionné par ailleurs que c'est inacceptable dans la République dominicaine. Nous devons aussi ajouter qu'il y a des dispositions qui sanctionnent l'exercice libre de culte dans notre pays, mais elles sanctionnent les critiques et elles empêchent les gens de faire ceci en public. C'est le cas de l'article de 2001, que dans l'exercice de leur ministère, de participer à des discours qui dérogatoires d'autres religions. Mais bien sûr, ceci n'est pas appliqué, mais il faut que cette pratique soit éliminée lors de l'amendement de notre code pénal. ces modifications viennent de 1844 en France. La loi dominicaine est plus difficile parce qu'il n'y a pas de corps législatif pour réguler la liberté de conscience et de pensée, et aucun organisme qui va y répondre au niveau international. Donc, on essaie de réglementer cette question. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de loi concernant la liberté de religion qui aussi régule ce droit. La possibilité de célébrer et de collaborer parmi les différentes religions et d'autres droits de base afin que tous puissent continuer leur travail à leur manière. Je dois aussi ajouter que j'ai pétitionné à partir de l'inspiration qui vient de la chrétienté, de mes valeurs et des valeurs de la République dominicaine, ce Dieu à qui nous devons tout, cette invocation dans notre Constitution, ce livre des Évangiles ouvert est le symbole de notre nation et nous oblige à investir dans la foi, aussi bien que dans la technologie ou d'autres choses. Je pense que la République dominicaine doit s'investir dans la foi. Messieurs, mesdames, merci.
Our thanks to our panelists. We have a few moments for questions.
Nous avons quelques moments pour des questions. Je vais prendre les questions. Est-ce que vous avez des microphones des deux côtés des portes? Une fois que vous avez le micro, est-ce que vous voulez vous lever, nous dire votre nom et votre pays d'origine?
Je vais parler en espagnol. Bonjour, je suis Fran Chavez du Mexique. J'aimerais poser une question à notre femme qui a parlé ici, savoir si dans son pays il y a des règles sur la conversion forcée, conversion religieuse forcée. Je pense qu'en islam, il y a des sanctions. Quand quelqu'un oblige quelqu'un d'autre à se convertir à une autre religion. Et je pense que dans la pratique, il y a eu des persécutions du fait que beaucoup se soient convertis à la chrétienté. Dans notre code, il y a une sanction pour le fait de forcer quelqu'un à se convertir. En fait, ce serait quelque chose que le tribunal Sharia traiterait. Donc, c'est un tribunal autre que le tribunal civique. Peut-être que ce tribunal a des différences d'opinion. Donc, pour quelqu'un qui est converti en dehors de l'islam, parce que c'est quelque chose qui est considéré comme inapproprié dans un pays islamique. Mais on n'irait pas à l'encontre des droits de l'homme, ça c'est sûr, dans notre pays.
C'est pour la question pour Judge Jarnout. J'ai été surpris par l'État moderne islamique. Est-ce que vous pouvez parler personnellement pas seulement en tant que juge. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce que moderne veut dire? J'imagine ce que ça voudrait dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les Jordaniens?
J'aimerais clarifier le fait que, par exemple, la Jordanie est différente de l'Arabie saoudite. Il n'y a pas de voie civique en Arabie saoudite. Mais nous avons une loi civile et la Jia donc n'est juste qu'une source. Sharia est une source seulement de loi. Et nous avons la législature qui est une des sources également. Est-ce que ça clarifie un petit peu? Oui. Oui, nous avons beaucoup de sources. L'une d'elles est le charia, donc la loi islamique et d'autres. Merci beaucoup.
Janet Buckingham du Canada. Hier, lorsque nous avons le panel des juges qui parlaient tous de la loi commune, la common law, et qui basaient leurs opinions sur des précédents et qui interprétaient la loi, est-ce que vous pouvez commenter en tant que juge de la loi du droit civil, lorsque vous devez utiliser des codes, combien de latitude avez-vous en tant que juge pour interpréter ces codes? Pour de nombreux d'entre nous, nous venons du common law aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez faire des commentaires sur votre capacité d'interpréter le droit peut être différent dans des juridictions de droit civil pour tous les deux. Est-ce que je commence? Est-ce que vous voulez commencer?
En tant que pays de loi civile, nous devons passer par la Constitution et la législation. Ensuite, la charia a des règles donc, que nous devons appliquer. Et après avoir appliqué tout ça, nous pouvons voir quelles ont été les décisions de la loi de la Cour suprême. Et donc... Et nous avons aussi des professeurs pour nous aider à interpréter la loi et toutes les lois. Donc, nous avons tout un tas de choses qui nous aident à interpréter la loi. Et nous avons une Cour suprême qui gère toutes les lois et s'assure qu'elles soient correctes. Donc, il y a une hiérarchie donc, à respecter.
Dans la République dominicaine, la Cour constitutionnelle est l'interprète suprême, l'organe qui décide sur la Constitution. La Cour a la limite de la Constitution, mais elle applique des méthodes de la constitutionnelle qui sont appliquées par les cours. Mais pour la première fois en République dominicaine, il a été établi qu'une décision qui vient du tribunal ou de la cour est liée et devient le précédent et oblige les cours dans la loi française, qui est la loi mère, et l'expression qui crée le précédent, qui est une référence à laquelle psychologiquement les magistrats ne sont pas liés de façon spirituelle, mais la Constitution a une force dans... Nous pouvons maintenir l'unité dans le système constitutionnel car le système est mixte. Il y a un domaine européen qui contrôle la constitution, mais ce centre particulier qui contrôle le domaine constitutionnel, mais toute autre cour doivent se référer à la loi constitutionnelle lorsqu'ils produisent quelque chose qui passe par un processus. Si il y a quelque chose de commun avec les États-Unis, un cas Mercury Madison, mais la personne a donné à la cour la décision finale, mais la cour constitutionnelle et les juges qui travaillent à des limites qui proviennent de la Constitution elle-même.
D'autres questions? Vous n'êtes pas venu jusqu'ici juste pour vous asseoir. Quand j'ai écouté vos présentations, j'étais très intéressé et j'ai pensé à mes responsabilités à moi-même en tant que juge. Et donc, cette relation entre la religion et les droits humains, je crois qu'on en a parlé un peu, mais j'aimerais parler davantage de la source des droits religieux dans vos pays et quelles sont les sources de vos droits de l'homme. Et donc, on a parlé un peu de la hiérarchie des lois. Est-ce qu'il y a des tensions entre les droits de l'homme et les droits religieux dans vos pays, du fait en partie des sources de ces droits? Est-ce que vous voulez que je commence? Dans mon pays, il y a un problème seulement avec le manque de provisions ou de clauses dans la Constitution qui définit les conventions et les traités de droits de l'homme et comment ils s'impliquent. Donc, en fait, nous devons revoir tous les cas passés et nous assurer donc, que nous sommes en accord avec les coutumes, ce qui a été fait. Donc, en ce qui concerne les droits de l'homme, nous allons avoir notre source, c'est donc la Gazette, qui est officielle, ce qu'elle publie. Et quand on voit qu'il n'y a pas de loi dans les traités et les conventions, on ne peut pas les appliquer. Donc c'est notre problème, c'est que nous avons besoin d'une Gazette publiée d'abord pour les appliquer. Si nous n'avons pas ces publications, nous ne pouvons pas les appliquer. C'est, je crois, une des tensions principales pour nous. Merci.
One of the questions that occurs to me as a judge is, what are the sources of human rights? In other words, what are the sources of law of human rights? And does that present opportunities for tensions between religious rights, which may be
Est-ce qu'il y a des tensions entre les droits?
Confieso que yo cometí un error porque yo estaba
Ah, oh, il l'a pas mis. Hey, push your button. Il a pas poussé son.
Pero tensiones entre derechos humanos y libertad religiosa. Bueno, yo le decía hace un momento en el caso de la corte.
Comme j'ai mentionné plus tard. Nous n'avons pas eu cette expérience. Cela va va arriver et dans cette éventualité, nous devrions analyser la situation. À ce moment-là, pour savoir quelle sera l'opinion de la Cour, s'il y avait une tension, mais je ne suis pas une personne qui pense qu'il y ait quelque chose de mal à ces tensions. Mais les droits naturels sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et nous pensons qu'elle a été inspirée, dont les rédacteurs avaient une conviction claire. Il y avait une relation claire entre les droits naturels et les droits de l'homme. On peut aller aux États-Unis et apprendre que tous les hommes sont nés égaux et restent égaux. Ça fait partie de la dignité intrinsèque qui vient du fait que les hommes, les femmes sont créés à l'image de Dieu. Mais voilà, c'est mon opinion. Dans le cas en République dominicaine, s'il y a une tension, les cours devraient réfléchir à ces cas. Comme je vous dis, il est difficile de penser en termes généraux sans laisser paraître mon idéologie personnelle.
On va passer à d'autres questions maintenant. Je crois que ça va terminer notre session. On va terminer de cette manière. Je ne pense pas avoir besoin de ça. Ah, si, pour les traducteurs, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Sachant que vos pays souffrent encore d'oppression des droits de l'homme, des abus, de la police est parfois abusive. Qu'est-ce que vous faites dans vos pays respectifs pour atteindre l'objectif qui a été fixé par vos constitutions respectives?
En Jordanie, nous avons signé beaucoup de traités de conventions pour les droits de la femme et de l'enfant, mais nous devons modifier les articles de notre Constitution pour gérer ces traités, ces conventions dans notre système juridique pour que les juges puissent les mettre en œuvre sans peur et qu'elles soient rejetées, que leurs décisions soient rejetées. La Jordanie fait beaucoup d'efforts pour appliquer les droits de l'homme. Vous devriez y aller en visite. Voilà ce que je peux suggérer. Dans ce cas, il faut modifier des articles de la Constitution pour gérer les traités dans notre loi.
Quand il s'agit de la République dominicaine, nous avons besoin d'une loi de liberté de religion. C'est nécessaire, c'est même urgent. Donc, il y a peut-être besoin d'un développement pour que notre constitution se rallie à cette cause. Nous avons encore beaucoup d'efforts à faire dans notre pays. Il y a un sentiment important en matière de religion. Et les statistiques montrent que 11%, simplement 11% de notre population n'est affiliée à aucune religion. Et c'était donc les chiffres qui datent de 2006. Il y a d'autres statistiques du milieu évangélique en 2007 qui disaient que les évangélistes représentent 17% de notre communauté. Nous avons une communauté de 350 juifs à Saint-Domingue. Nous avons un rabbin et une synagogue, même dans d'autres parties de la République dominicaine. Nous avons aussi l'islam présent et des gens qui viennent de l'extérieur. Même, il y a même des bouddhistes qui arrivent d'Inde. Donc il y a toute une diversité et cette diversité doit être reconnue et exprimée, en particulier dans les statuts de notre déclaration. Et ça doit être reconnu donc par les hommes qui régulent la relation entre les catholiques et les autres religions. Moi-même ai promulgué la nécessité, même avant d'être juge, la nécessité pour cette loi particulière ou ce statut. La dernière fois que j'en ai parlé était en 2010 et il y a eu un incident dans lequel on m'a demandé de parler de statut, donc de liberté de conscience, et aussi de considérer donc le peuple de Dieu rassemblé dans différentes congrégations. Ils en ont donc besoin.
À propos de l'apostasie, même dans la cour du charia, l'apostasie est criminalisée dans les droits de l'État. Donc, les droits de liberté, comment est-ce que la charia gère les libertés religieuses et les droits de l'homme?
Tout d'abord, ma spécialité n'est pas le tribunal charia. Désolé. Donc, je ne connais pas bien toutes les lois charia et comment elles sont appliquées. Mais en ce qui concerne la Jordanie, ce qui est appliqué en Jordanie, les gens qui se convertissent hors de l'islam, qui quittent l'islam, est une des plus grandes sources de conflits en islam. Donc, je ne sais pas comment ils vont s'arranger pour être en accord avec les droits humains, pour permettre à ces gens de se convertir et de quitter l'islam. Mais il va falloir faire quelque chose parce que les autres religions, quelquefois, ont des grosses pénalités, des grosses sanctions qu'ils encourent suite à des procès dans le tribunal sharia, comme le retrait des enfants ou d'autres choses. Donc j'espère qu'ils vont faciliter la tâche pour que les autres puissent aussi continuer de suivre leur propre religion. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation. Merci. Et nous remercions nos orateurs. Merci.